ça enregistre là.
Il n'y a pas de pub sur FPP.
106.3 FM, fréquence Paris pluriel.
Pas mettre plus fort 106.3, il y a du bon son là, j'entends rien.
Bon, tu peux arrêter.
Voilà, on c'est bon, on a tout pour celui-là.
Alors FPP, hein, 20 ans.
Je dis non, mais à la vie, je dis oui.
Hey, salut. C'est Zoom Écolo ce jeudi, comme tous les jeudis, de 20h30 à 21h30. Ce soir, vous retrouvez la bande à Bébert sur FPP, sur 106.3 FM, comme d'hab. Donc bienvenue, auditeurs, auditrices. Ce soir, la bande à Bébert vous propose de parler de toxicologie, de capitalisme. Alors, ce capitalisme qui nous bouffe la santé, on va en parler avec plusieurs variantes. Donc autour de la table ce soir, j'ai Élise à ma droite.
Salut à tous.
Et moi, c'est Clément. Bonsoir. Les autres sont en régie, en balade, ils arrivent. On n'est pas pressé, c'est émission artisanale.
Salut.
Salut Cyril. Donc ce soir, on va vous parler, on a un invité au téléphone d'Amnesty International qui nous parlera tout à l'heure de déversement de déchets toxiques. Et on va avoir un petit apéro presse là dans les minutes qui viennent, et puis un petit agenda à la fin aussi, histoire de se dégourdir les pattes, excusez-moi, et d'aller faire un petit tour à droite à gauche sur des luttes. Voilà, donc dans l'immédiat, on va parler de Fukushima. Non ? Bon, alors on va pas parler de Fukushima tout de suite, on va parler d'un autre sujet un peu plus réjouissant. L'apéro presse, c'est on renoue avec les racines de l'émission. Hein. Donc on prend un journal et puis on trouve des infos intéressantes en lien avec l'écologie et le social. Et donc la semaine dernière, je suis tombé sur un article fort intéressant de CQFD du mois de septembre. Donc, CQFD, c'est un petit canard marseillais qu'on aime bien à la bande à Bébert. Et donc on a un article très intéressant sur un projet en Italie, enfin un projet, sur une décision de justice qui a fait fermer plusieurs usines polluantes.
Là, qui, les gens devaient
qui
pas donnent être
contents. Qui donnent le cancer depuis des générations. Et donc forcément, il y a eu une espèce d'affrontement entre les syndicats qui défendent le travail et puis une multitude de personnes qui défendent aussi bien la santé que la vallée en général, que la citoyenneté, la liberté de ne pas se faire intoxiquer la gueule. Donc en gros, ça se passe dans la ville de Tarente, en Italie. Donc c'est un port industriel du sud du pays. Et des usines de métallurgie, plutôt de production d'acier, plus précisément, déverse depuis des décennies des produits toxiques dans l'atmosphère. Et il y a des retombées sur la population, donc nombre de cancers incalculables. Donc il y a 40% de chômage dans la région, et forcément, un des seuls employeurs, c'est la société Ilva, qui possède plusieurs usines. Et donc, fin juillet de cette année, il y a une juge, la juge Patrizia Todisco, qui a mis sous séquestre 6 sites de cette société, et donc mettant en avant le désastre environnemental. Alors, je ne sais pas derrière les préalables de cette décision de justice, toujours est-il
que... Est-ce que tu as des exemples un petit peu de problèmes sanitaires et...
Des exemples, oui. Il y en a plein, des cancers, à la fois pour des quinquagénaires, des quadragénaires... Et des enfants qui apparemment sont pas en grande forme aussi. Alors j'ai pas plus de détails là-dessus. C'est vrai que je me suis basé que sur cet article. Je n'ai pas recoupé les informations. Je ne suis pas un bon journaliste. Mais
de toute façon, je pense que
c'est intéressant en fait d'un point de vue aussi social de voir que les syndicats apparemment corrompus, enfin, d'après ce que disent les ouvriers de Ilva et d'autres travailleurs de la vallée, se sont fait passer devant, en gros, par un collectif, un comité qui s'appelle Comité de citoyens et de travailleurs libres et conscients, donc qui n'est pas du tout partisan ou lié à un syndicat, mais qui est plutôt justement sur une base de une base ouverte d'ouvriers, de travailleurs, d'intérimaires, de chômeurs, de citoyens, d'étudiants et d'autres profils, et qui valorisent d'abord, enfin qui veulent mettre en avant le droit à la santé avant le droit au travail, quoi.
Mais il me semble avoir vu une petite vidéo là-dessus. Et comme tu dis, ce sont des usines qui employaient énormément de personnes. Et il me semble qu'ils ils annonçaient que dans chaque famille, il y a au moins une personne de malade. Donc,
voilà. Ça rappelle certaines industries, par exemple, dans la Manche, qui emploient beaucoup de gens, dont des travailleurs, des intérimaires, et qui nuisent fortement à la santé environnante. Bon, on en parlera juste après. Mais c'est vrai que du coup, c'est intéressant de voir qu'en Europe, il y a une situation comme ça où il y a un dialogue possible, parce que bon, les syndicats, évidemment, les syndicats représentatifs, qui apparemment sont plus ou moins liés à l'entreprise et corrompus. Heureusement, ce n'est pas partout le cas, mais voilà. Donc, bon, eux, évidemment, ils se sont offusqués parce que ils se sont fait prendre la tribune lors d'une des manifestations en août, qui visait à défendre le droit au travail, le droit d'aller bosser à l'usine pour se faire intoxiquer. Donc, bon, il y a eu un rapport de force là-dessus. Et le fait est que bon, les autorités ont repris une décision de justice derrière. Un autre tribunal local a permis de relancer la production, tout en laissant à l'écart les dirigeants qui ont été... En fait, les dirigeants ont été mis en état d'arrestation. Donc c'est quand même aussi une progression quelque part, parce que souvent, les pollueurs restent impunis. Mais bon, la production a redémarré, mais avec des travaux d'assainissement. Donc on peut espérer derrière moins de pollution au niveau de ces usines. Bon, après, on peut discuter aussi de quoi on a besoin en termes de production, etc. Bon, l'acier, ça peut servir à pas mal de choses quand même. Après, là, ils souhaitent le produire de façon plus propre. Alors bon, il faut se méfier, évidemment. Mais donc, on peut voir là un rapport de force intéressant entre le travail, l'environnement, et en même temps un dialogue entre l'économique, le social et la défense de la santé en Europe. Ou ailleurs. On parlera un peu d'autres zones géographiques après. Donc voilà, ta rente en Italie. Et pourquoi pas ailleurs un jour. Sait-on jamais.
Pourtant, c'est pas les luttes qui manquent. Hein.
C'est pas les luttes qui manquent, exactement. Donc inspirons-nous de ce qui se fait et poursuivons. Voilà. Donc après cette petite introduction, on va parler rapidement de Fukushima au Japon.
En 5 minutes. Et puis on va essayer. Alors bonjour déjà. Et on va c'est Johan. Et on va faire un état des lieux de Fukushima, parce qu'on n'en a pas parlé depuis quelques émissions. Et
ça vous manquait.
Et oui, ça manque à tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Est-ce que le Japon est devenu florissant ? Bah, un petit peu. Et pour les points positifs, les Japonais font un travail de déblaiement autour des réacteurs pour essayer de récupérer les assemblages qui sont récupérables et puis débarrasser tout ce qui pourrait gêner des opérations futures de récupération. Et le problème, c'est qu'il y a pas mal de contraintes mécaniques et... oui.
Non, je voulais juste rappeler que c'était la grosse catastrophe nucléaire au Japon.
Oui, bah oui.
Des fois que quelqu'un l'aurait oublié, on ne sait jamais, avec le flot d'informations qu'on peut avoir en permanence. C'est toujours la cata et le nucléaire est dangereux. Voilà.
Y en a qui disent qu'il n'y a pas de mort.
Ouais, ils ferment les yeux, donc ils ne voient rien.
Voilà. Donc... Effectivement, c'est toujours la catastrophe de Fukushima suite au tremblement de terre et au tsunami du 11 mars 2011. Et la situation n'est toujours pas stabilisée, malgré des tentatives de censure médiatique, de choix de l'information, de tradition aussi locale, parce qu'on commence à buter sur des choses comme ça, tradition locale japonaise, qui fait qu'on ne parle pas des problèmes, on ne dit pas ce qui se passe, enfin on ne veut pas voir les problèmes, et on fait confiance à ceux qui opèrent sur la question. Donc une forte délégation, mais bon, à travers ça, il y a quand même beaucoup de problèmes qui remontent.
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu pas mal de manifs, mais il n'y a pas eu d'écho.
Oui, il y a eu des grosses manifs. Oui.
J'ai vu dernièrement des images de gens, justement au Japon, qui manifestaient par rapport au nucléaire. Ils étaient complètement hors d'eux-mêmes, et moi ça m'a un peu étonné parce qu'on a... Oui. On a l'impression que les gens ne disent rien.
Il y a une part de la population. Déjà, il y a un gros. La population est majoritairement en colère contre le nucléaire. Ça, c'est ce qui pose problème justement aux villages nucléaires japonais. On les appelle comme ça maintenant parce qu'ils sont dans un village et puis voilà, ils prennent leurs décisions entre eux et puis pour tout le monde, sans trop d'accès démocratique. Donc du coup, oui, il y a un sentiment de colère vis-à-vis du nucléaire. Il y a une part de la population qui s'est ralliée aux manifs anti-nucléaires, notamment celle du 29 juillet, qui a, selon la police, 10 000 personnes, selon les manifestants, 200 000 personnes. Donc ça fait beaucoup quand même dans un pays qui n'est pas trop habitué à ce genre de choses. Et il y a pas mal de petits spots de contestation pour réagir face à ça. Je ne peux pas parler de tout ce qui se passe parce que c'est vraiment affolant. Et je vais simplement vous lire quelques conclusions que j'ai. Déjà, il y a le problème de la censure qui est toujours permanent. On paye, par exemple, Twitter pour ne pas parler des déchets incinérés. Hein, donc, recontamination. On sait que TEMCO ne peut pas explorer l'usine dévastée de Fukushima avec les technologies existantes. Donc ils sont en train de lancer des opérations, de nouveaux projets pour pouvoir développer des moyens. Il faut savoir qu'on n'a pas de moyens existants pour pouvoir gérer la situation.
Mais heureusement, la R&D est là pour nous sauver.
Bah voilà, mais bon, après Tchernobyl, la R&D a visiblement été en panne. Et donc il y a ça. La contamination, elle continue. Ça, c'est aussi avec des réactions de criticité aléatoire. Je suis à combien ? Et donc, la centrale n'est toujours pas stabilisée, quoi qu'on dise. On a des fuites de partout. On a encore des on mesure encore du césium au pied de... Dans le port de Fukushima, là, dont on ne sait pas l'origine. On suppose même que c'est le 5 et le 6 qui sont censés être stabilisés. Donc les 4 réacteurs ne sont pas stabilisés. On a des appels à l'urgence, des appels au secours des mamans dans les zones contaminées pour pouvoir évacuer. Parce que malheureusement, on constate des nodules sur les enfants, les adolescents, mais aussi... sur les plus petits. Alors, je peux pas autrement parler de ça. Les mamans qui savent plus comment réagir parce qu'elles deviennent de plus en plus sévères vis-à-vis de leurs enfants parce que ils veulent s'amuser leur gamin. Un gamin, on peut pas le raisonner. On est obligé d'aller raisonner un gamin qui veut jouer dehors, etc. Ben, les mamans, elles veulent protéger leurs enfants, donc elles les engueulent. Mais ça n'arrive plus à trouver l'équilibre parce que tout est contaminé là-bas. Il y a des hotspots partout. Donc elles ne savent plus comment réagir. Elles deviennent violentes, c'est ce qu'elles disent, certaines, parce qu'elles veulent protéger leurs enfants. Et c'est complètement en contradiction avec le sentiment d'une maman qui veut protéger, qui veut ne pas être violente avec ses enfants. Alors, donc il y a une évacuation qui est demandée. Et ça, c'est une urgence. Je terminerai par la nécessité d'une intervention internationale pour pouvoir changer la direction du Japon qui visiblement, qui va vers de gros problèmes parce qu'elle ne gère pas correctement le problème. Et ça, cette intervention malheureusement n'est pas faisable actuellement. Il y a tout un processus à mettre en place, mais il y en a besoin. Il y en a vraiment besoin. Et de toute façon, ça servira pour tout le monde en cas de catastrophe. Donc voilà.
Peut-être que le changement viendra de l'intérieur, on peut l'espérer aussi. apparemment la population devient de moins en moins sage et de moins en moins moins en moins de confiance dans son gouvernement et dans ses élites.
Oui, il y a
Et puis au niveau action internationale, pour l'instant, ils sont en plein conflit avec la Chine autour d'un archipel avec des manifestations assez violentes anti-japonaises en Chine à propos de cet archipel qui contient plein de pétrole et de ressources. Donc pour l'instant, on en est là. Donc au niveau solidarité internationale pour organiser des trucs, c'est mal barré. Je voulais juste rajouter un petit mot à propos de Piscine 4. Ah bah non, on a le coup de fil, donc peut-être plus tard.
Voilà. Pour conclure rapidement sur le problème de l'après-Fukushima, moi j'ai retenu trois choses. L'État ne protégera pas la population, la population purement, mais seulement les intérêts économiques. Donc c'est à chacun, la deuxième conclusion, c'est à chacun de se protéger, d'organiser sa protection. C'est une responsabilité personnelle. Et la troisième conclusion, pour se protéger, il faut savoir détecter, donc avoir des connaissances en radioprotection. Et ça, je pense que ça touche tout le monde. Voilà pour l'après-Fukushima. Donc on va passer à un autre problème aussi de grande ampleur avec Amnesty International. Je te laisse présenter, Elisa.
Oui, alors je ne sais pas si Francis Perrin... Donc, si Francis Perrin est ici.
Oui.
Donc en fait, pour présenter... Donc en fait, Francis Perrin est porte-parole d'une campagne en fait qui entoure un rapport d'Amnesty International et de Greenpeace au sujet d'un déversement de déchets toxiques par le Probo Koala, donc c'est le nom d'un bateau en Côte d'Ivoire. Donc Francis, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler un petit peu les faits, nous rappeler comment ça
s'est passé? Très, très volontiers, bonsoir. Alors sur les faits eux-mêmes et de façon très 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 résumée parce que c'est une histoire très complexe, c'est une entreprise de négoce énergie matières premières qui s'appelle Trafigura, qui est un groupe multinational qui se considère comme le numéro 3 mondial du négoce pétrolier, qui a décidé fin 2005, début 2006, d'acheter au Mexique des cargaisons d'un produit pétrolier qui s'appelle le nafta de coquefaction. Alors je passe sur les détails techniques, ce n'est pas essentiel pour nos auditeurs, mais en tout cas, c'est donc un produit pétrolier qui est utilisé dans l'industrie pétrolière, mais qui produit des déchets qui ne sont pas forcément, dont il n'est pas forcément facile de se débarrasser. Et ça demande, c'est un travail qui demande évidemment une expertise, une expérience, des installations toutes particulières. Donc il y a quelques entreprises dans le monde qui savent faire proprement, correctement, ce genre de travail, de traitement de ce type de déchets. Donc le Probo Koala, c'est un navire sur lequel donc se trouvaient des déchets liés à ce nafta de coquefaction. Et Trafigura essayait de trouver à travers le monde des pays d'accueil pour pouvoir faire traiter cette cargaison un petit peu embarrassante, les déchets en tout cas, parce que la cargaison, évidemment, elle était revendue et c'était tout à fait rentable pour l'entreprise. Donc ils ont eu différentes difficultés parce qu'ils avaient tendance souvent à pas dire toute la vérité sur la nature exacte de ces déchets. Et quand les entreprises ou pays concernés se rendaient compte que c'était un petit peu délicat, parfois ils leur disaient « non, on peut pas », ou alors ils leur disaient « écoutez, ça va être beaucoup plus cher que ce que vous avez annoncé sur la foi des informations que vous nous aviez données ». Donc je passe encore sur un certain nombre de péripéties. Ils arrivent, le Probo Koala, ce navire, donc arrive à Amsterdam, en 2006, et la même chose, même discussion, et puis du côté hollandais, on dit « mais c'est pas ce que vous nous aviez dit, on voit que le produit est autrement plus coriace, donc la facture du traitement de ces déchets, ce sera beaucoup plus cher que prévu ». Et Trafigura dit, ben non, c'est trop cher. Après, ils vont en Estonie. Après, ils partent vers l'Afrique. Ils tentent leur chance au Nigeria. Ça ne marche pas. Et finalement, le Probo Koala arrive en Côte d'Ivoire, où là, il signe un contrat avec une entreprise locale qui ne connaît absolument rien à ce type de déchets très, très, très spécialisés, mais qui, contre espèces sonnantes et trébuchantes, dit, moi, pas de problème, je vous en débarrasse. Et ces déchets sont donc déchargés en août 2006 dans le port de d'Abidjan. Et cette entreprise locale qui s'appelle Tommy, T-O-2-M-Y, charge ses déchets à bord de camions. Et puis les camions vont jeter ces déchets dans des décharges publiques à Abidjan. Aucun traitement, les déchets ne sont pas enterrés. On encaisse le chèque et puis on fait le travail n'importe comment, ça, alors qu'il s'agit de déchets dangereux. Ça, c'est août 2006. Et pour finir l'histoire, enfin uniquement sur le plan factuel, dans les 5 mois qui ont suivi août 2006, donc entre août 2006 et janvier 2007, on estime qu'il y a eu plus de 100 000 Ivoiriens qui sont allés consulter des centres de santé en raison de problèmes, de pathologies, de douleurs liées à cette question de déchets toxiques. Et il y aurait eu une quinzaine de morts selon le gouvernement ivoirien. Nous ne sommes pas en mesure de confirmer le nombre de morts et le lien avec cette histoire de déchets. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une catastrophe sanitaire d'une grande ampleur qui est liée au comportement d'entreprises qui ont cherché à se débarrasser au moindre coût possible et dans n'importe quelle condition de déchets qui sont des déchets toxiques. Ça, ce sont les faits en très, très résumé.
D'accord. Tu avais une question, Johan ?
Oui. La manière dont a été contaminé les gens, c'est...
Alors, c'était des personnes qui habitaient, donc à Abidjan, près des différents lieux où ces déchets ont été jetés comme si on jetait des déchets ménagers. Même les déchets ménagers, d'ailleurs, aujourd'hui, on les récupère, on les traite et on les brûle. Mais voilà, donc c'était des décharges publiques. Les camions de cette entreprise Tommy ont déversé les déchets dans une vingtaine environ de différents lieux à l'intérieur de la capitale Abidjan. Il y a du monde à Abidjan. Et les gens, évidemment, ils vivent à côté de... parce que ces décharges, elles sont dans la ville. Et par conséquent, évidemment, les émanations venant de ces déchets toxiques ont rendu malades pas mal de personnes, donc maux de tête, vomissements, problèmes de peau, problèmes des yeux, etc. Et donc ça a entraîné ces dizaines et ces dizaines de milliers de consultations médicales entre août 2006 et janvier 2007, dues à la présence tout près des habitations, de très nombreuses habitations, de ces déchets jetés dans une vingtaine de lieux comme ça de décharge, sans aucune précaution prise, sans la moindre précaution prise pour limiter justement cette possible contamination.
Donc là, vous nous dites que là, ces chiffres sont jusque 2007, donc ça, il doit y avoir encore plus de...
Ah, alors, effectivement, disons que l'intérêt de parler des mois qui suivent l'arrivée de ces déchets, c'est bien de montrer qu'il y a un lien. Parce que c'est pas tous les jours ou tous les mois qu'on a ce phénomène de masse. Parce que Trafigura, pour sa part, l'entreprise donc de le groupe multinational de négoce pétrolier de matières premières, continue à dire encore aujourd'hui, mais vous savez, mes déchets, ils sont pas si vilains que ça. Et en fait, moi, j'ai fait plein d'études médicales, nous disent-ils, et c'est pas possible que les gens aient été affectés de cette façon-là. Sous-entendu, c'est autre chose, ou alors ils sont un peu fragiles, ou alors, bon, voilà. Il est important de montrer qu'il y a des liens, il y a des sources médicales sur place, évidemment, il y a eu une assistance médicale, il y a des médecins de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui sont venus parce que leurs confrères ivoiriens faisaient face à des consultations médicales en masse. Ils n'avaient évidemment jamais vu ça sur une période de temps aussi courte, avec des symptômes qui se ressemblaient tous et qui pouvaient être rattachés à la conséquence du dépôt de ces déchets dans n'importe quelle condition.
Et donc là, vous nous avez parlé des conséquences sanitaires. Et est-ce qu'on a pu observer des conséquences aussi plutôt sur l'agriculture, sur les animaux, donc sur la production.
Alors là, on est en ville, on est vraiment à Abidjan. D'accord. Les déchets sont déchargés dans le port d'Abidjan et ensuite les camions de l'entreprise locale Tommy les mettent dans des décharges ou dans des lieux à Abidjan. Alors bien sûr, ces déchets sont pas bons pour l'environnement, c'est clair, mais comme on est dans une ville, les conséquences sur les êtres humains sont immédiates. Et c'est ce qui domine le paysage de cette tragédie.
La Côte d'Ivoire, enfin les Africains ont cet esprit DIY, c'est un petit peu la capitale même du DIY, l'international du DIY, du do-it-yourself, donc ils récupèrent beaucoup de choses. Donc c'est aussi peut-être l'eau a été contaminée.
Alors
c'est de comprendre un petit peu le cheminement de ces déchets toxiques pour qu'au final, ils aient un impact aussi important sur... les gens qui habitent cette ville et la manière dont a circulé ces déchets.
Alors, ils n'ont pas eu besoin de circuler beaucoup, parce qu'il faut garder à l'esprit qu'on parle ici de déchets liés à des produits pétroliers. Les produits pétroliers, ce n'est pas toujours très propre. Et certains d'entre eux, évidemment, sont plus sales que d'autres. Il y a des choses dangereuses dans ces produits. Hein. Il peut y avoir du benzène, il peut y avoir des choses qui ne sont pas très sympathiques, donc qui nécessitent un traitement industriel par des personnes compétentes pour ça. Ce n'est pas des choses qu'on met dans la nature ou encore moins dans une ville, bien sûr. Et puis, on est donc dans une ville, il y a une forte concentration de population, les gens ne sont pas loin donc de ces différentes décharges, ils ont choisi de d'essaimer ça, sans, peut-être pour que ce soit plus discret, dans une vingtaine de lieux à Abidjan, donc ça fait énormément de personnes qui sont proches de ces déchets et des émanations que ces déchets vont provoquer.
Tout ça, c'est
vraiment
fait...
le contexte qu'il faut avoir à l'esprit.
Tout ça, c'est fait légalement.
Alors, à notre avis, de l'avis d'Amnesty International et de Greenpeace International, qui ont donc travaillé conjointement pendant 3 ans au moins pour mettre sur la place publique ce pavé, un pavé au sens de la lourdeur du rapport, mais aussi le pavé dans la mare, je dirais, nous pensons que non, nous pensons que ce n'est pas du tout légal. Heureusement, il y a à notre époque un droit international, il n'est pas parfait, il n'est pas sans limitation, il n'est pas bien sûr sans faille, mais en l'espèce, il y a un droit international concernant la question des déchets toxiques. Il y a des conventions internationales, notamment la convention de Bâle, qui porte sur les mouvements transfrontières de déchets toxiques, et qui fixe un certain nombre de règles de base. Parce que avant ces conventions, évidemment, n'importe quel petit malin pouvait envoyer ses déchets, et certains ne se sont pas privés, d'un bout à l'autre de la planète, notamment vers des pays en développement, parce qu'on est face à des États qui ont moins de moyens sur tous les plans, administratifs, scientifiques, parce que la corruption est beaucoup plus facile, on va aisément graisser la patte à quelqu'un pour qu'il accepte vos saloperies, si vous me passez l'expression, en échange d'une somme qui n'est pas énorme pour le corrupteur et qui est énorme pour le corrompu. Et souvent des administrations, des États assez faibles, bon, pour plein de raisons, tout ça est bien connu. Et donc cette convention de Bâle, justement, prévoit un certain nombre de règles du jeu pour ces mouvements transfrontières des déchets toxiques et prévoit notamment l'obligation d'informer l'État de destination ou de destination potentielle pour savoir s'il est prêt à accepter ses déchets, ce qui est quand même le moins. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il se pose des questions en disant « Est-ce que je peux traiter ces déchets? Qu'est-ce que je peux faire ?» En l'occurrence, l'État ivoirien n'a pas été averti de l'arrivée du Probo Koala et du contenu de sa cargaison. Trafigura s'est entendu avec une entreprise privée ivoirienne, l'entreprise donc Tommy. Ils ont signé un contrat, tous les deux, comme des grands, si je puis dire. Trafigura était contente de se débarrasser de ses déchets. Tommy était contente d'encaisser un chèque qui, évidemment, pour une entreprise locale qui avait été créée peu de temps auparavant, ça devait être un véritable pactole, même si pour Trafigura, c'était pas grand-chose, c'était une goutte d'eau dans la mer, dans l'océan de ses finances. Mais l'État ivoirien n'a pas été prévenu, comme la Convention de Bâle en fait obligation. Donc, il y a clairement des activités illégales. Et d'ailleurs, Trafigura a été condamné, pas suffisamment d'ailleurs, mais a été condamné par un tribunal hollandais et ça a été confirmé en appel, a été condamné pour exportation illicite de déchets toxiques de l'Europe, des Pays-Bas en l'occurrence, vers l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Mais, par contre, la justice hollandaise, qui a eu quand même le mérite d'enquêter et de condamner Trafigura à une amende de 1 million d'euros, sachant qu'on parle d'un grand groupe multinational, hein, 1 million d'euros, c'est de l'argent de poche, c'est ce qu'on laisse en pourboire quand on prend un café dans le monde du pétrole. Mais en tout cas, les Pays-Bas ont quand même eu le mérite d'enquêter et de sanctionner, mais le procureur aux Pays-Bas a refusé que l'enquête couvre ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il a dit « on s'intéresse à l'exportation illicite de déchets des Pays-Bas vers l'Afrique ». Ça, on les condamne là-dessus. Mais par contre, ce qui s'est passé après le dépôt de ces déchets en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'essentiel de cette tragédie, parce que c'est là où il y a les victimes par dizaines de milliers, le procureur a refusé que cela entre dans le cadre de l'enquête et des procédures judiciaires qui ont été conduites aux Pays-Bas contre Trafigura.
Et du coup, ce serait du ressort de quelle institution ?
Alors, le procureur aux Pays-Bas a avancé plusieurs arguments que Greenpeace et Amnesty International contestent pour leur part. D'accord. L'un de ces arguments consiste à dire « la justice ivoirienne est en train de s'en occuper ». Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a bien eu des enquêtes qui ont été ouvertes en Côte d'Ivoire. Il y a une commission d'enquête nationale, une commission d'enquête internationale, et puis les tribunaux ivoiriens. Et à un moment, deux cadres de Trafigura ont été placés en détention en Côte d'Ivoire par rapport à cette affaire-là. Mais quelques mois après, en février 2007, donc c'était août 2006 le déversement, en février 2007, Trafigura et la Côte d'Ivoire ont signé un accord au terme duquel Trafigura versait une somme d'argent, l'équivalent à l'époque, avec le taux de change de l'époque, de 150 millions d'euros à l'État ivoirien, pour que celui-ci verse des compensations financières aux victimes. Et en échange de cette somme, l'État ivoirien a accordé une immunité judiciaire totale à Trafigura, et donc a libéré ses dirigeants, les a laissés repartir chez eux et a arrêté toute poursuite judiciaire en Côte d'Ivoire contre Trafigura. Et ce que nous disons, Amnesty International et Greenpeace, c'est que dans cette affaire, les victimes, qui sont très nombreuses, les victimes, comme tous les êtres humains, ont des droits. Et quand on est victime de graves violations de ces droits, ici notamment le droit à la santé, qui fait partie de ce qu'on appelle les droits économiques, sociaux et culturels, qui font eux-mêmes partie de ce que l'on appelle les droits de l'homme, eh bien, quand on est victime, on a droit à plusieurs choses, notamment on a droit à la vérité, savoir exactement ce qui s'est passé. Deuxièmement, on a droit à la justice. Cela veut dire que les responsables de ces violations doivent avoir des comptes à rendre devant des tribunaux. Et troisièmement, on a droit à des compensations liées aux dommages que l'on a subis. Dans cette affaire-là, si on reprend les trois points, le droit à la vérité, aujourd'hui encore, Trafigura n'a pas révélé publiquement la composition exacte des déchets toxiques, ce qui pose un très grand problème en termes sanitaires. Deuxièmement, l'accord d'immunité signé avec la Côte d'Ivoire fait que Trafigura, en tant qu'entreprise, et où les dirigeants de Trafigura n'ont pas eu de compte à rendre devant la justice, puisqu'on leur a dit « vous avez une immunité ». Et troisièmement, plusieurs milliers, on estime environ 6000 victimes, n'ont pas touché de compensation financière parce qu'il y a eu quelque chose d'assez sombre. Manifestement, en Côte d'Ivoire, certains ont créé une association bidon pour recueillir une partie de ces compensations financières et pour se les mettre dans la poche sans les verser à une partie des victimes. Donc 6 ans après le dépôt de ces déchets dans les conditions que nous avons évoquées, il n'y a pas encore la vérité, il n'y a pas du tout la justice et il n'y a pas pour toutes les victimes des compensations adéquates.
Ça ressemble à un sac à pot de vin, votre histoire. Ça va être extrêmement difficile.
Certaines rumeurs sur des actes de corruption en Côte d'Ivoire. Amnesty International, on ne se prononce pas sur cet aspect des choses parce que nous n'avons pas enquêté sur ce sujet et que notre organisation a pour principe d'affirmer des choses si derrière on a les moyens de les prouver. Beaucoup de personnes... connaissant la Côte d'Ivoire et la situation de la Côte d'Ivoire à l'époque, estime probable qu'il y a eu des choses assez louches. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'argent versé par Trafigura, même si c'est très insuffisant, à la Côte d'Ivoire suite à l'accord de février 2007, on ne sait aujourd'hui toujours pas exactement ce qui s'est passé. Et l'une des demandes de Greenpeace et d'Amnesty International, c'est que la Côte d'Ivoire mette sur la table tous les éléments, fasse preuve de la plus grande transparence quant à la façon dont cet argent a été utilisé. C'est l'une de nos principales demandes aux États concernés. Et évidemment, nous avons des demandes dirigées vers certains États, Côte d'Ivoire, Royaume-Uni, Pays-Bas, Union européenne, et puis des demandes évidemment dirigées vers Trafigura et des demandes également dirigées vers la communauté internationale dans son ensemble, parce que c'est à cette communauté qu'il appartient de faire respecter le droit international. En l'occurrence, il y avait bien un droit, on n'était pas face à un vide juridique, mais le droit n'a pas été appliqué, et c'est ça le grand problème.
D'ailleurs, il me semble qu'actuellement se réunissent à Genève les États pour rediscuter de la convention de Bâle.
Oui, tout à fait exact. C'est ce qu'on les juristes appellent les États parties à la Convention de Bâle. Ça veut dire les États qui ont ratifié cette convention et qui se sont donc engagés à la respecter. Souvent, dans des conventions internationales, on les signe, on les ratifie, elles rentrent en vigueur, et puis le texte prévoit que quelques années après, ou plusieurs années après, il y a une réunion pour faire le point sur l'application de cette convention, ce qui va bien, ce qui va moins bien, les difficultés d'application, comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses. Et effectivement, en ce moment, à Genève, il y a cette réunion des États parties qui ont ratifié la Convention de Bâle. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce rapport sort en septembre et non pas en août. Il aurait pu sortir en août parce que ça aurait été le 6e anniversaire, entre guillemets, du déversement des déchets à Abidjan. Il sort en septembre pour coïncider justement avec cette réunion à Genève sur un petit peu la mise en œuvre de la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontières de déchets toxiques.
D'accord, donc vous pensez pouvoir alerter un peu les États présents lors de cette réunion ?
Cela fait partie de notre travail qui a commencé donc dès la publication du rapport qui vient de sortir. Nous demandons notamment aux États qui ont ratifié la Convention de Bâle de clairement spécifier que le produit qui est à l'origine de ces problèmes, le naphtha de coquefaction, est bien un produit qui est couvert par la Convention. Et puis nous demandons évidemment aux États de tirer des conclusions de cet exemple, de ce véritable scandale sur beaucoup de points, pour qu'une telle chose ne puisse plus se reproduire, ni en Côte d'Ivoire, ni en Afrique, ni partout dans le monde. Et puis nous demandons à la Côte d'Ivoire donc de réexaminer la légalité de l'accord d'immunité qu'elle a conclu avec Trafigura en 2007. Nous estimons que cet accord est illégal et que l'État ivoirien devrait revenir sur cet accord. Nous demandons également au Royaume-Uni d'ouvrir une enquête pénale sur les agissements de Trafigura. Pourquoi le Royaume-Uni ? Trafigura est un groupe multinational, donc il est en plusieurs pays. Mais à Londres, il y a une filiale, Trafigura Limited, qui a des responsabilités particulières dans les mouvements du Proboko Allah à l'époque, étant donné que cette filiale est notamment chargée de tout ce qui est négoce pétrolier. Donc nous pensons que pour la justice britannique, ce lien de territorialité par rapport à Trafigura Limited permet de dire que la justice britannique est compétente et qu'elle doit au minimum enquêter, ce qui n'a pas été fait au moment où nous parlons, depuis donc 2006, pour enquêter, pour savoir si Trafigura a ou non violé la loi britannique. Nous avons également des recommandations vis-à-vis des Pays-Bas, qui ont fait du bon travail sur certains plans, mais qui ont commis une grosse erreur. Lorsqu'ils ont compris exactement de quels déchets il s'agissait, à Amsterdam, eh bien, ils ont laissé repartir le bateau en ne sachant pas où il pourrait aller. Et évidemment, chacun pouvait penser qu'il irait probablement vers un pays du tiers-monde où on a moins de difficultés à écouler ce genre de déchets. Les Pays-Bas auraient dû retenir ce bateau en application justement de la Convention de Bâle. Et d'accord. Puis la Commission européenne, qui n'a pas non plus été un foudre de guerre dans la matière, en la matière. Donc pas mal de, je dirais, d'entités publiques et privées en prennent pour leur grade à travers ce rapport, à commencer évidemment par Trafigura, qui est bien sûr le principal responsable.
D'accord. Bah, je vous remercie beaucoup, Francis.
Merci beaucoup à vous
pour
de votre invitation.
Je ne sais pas si vous avez des questions, les copains.
On n'a plus le temps, surtout. Mais c'est, merci pour toutes ces informations. Ça a l'air très difficile comme dossier et ben, c'est très ambitieux aussi.
C'est horriblement complexe, mais c'est extrêmement important.
Ben, on vous souhaite bon courage. Bon courage, j'espère que vous serez entendu.
Merci
et on se fera le relais des suites, s'il y en a. Donc on reste informé. Voilà.
On vous en êtes très reconnaissant.
Merci
beaucoup et
merci
bonne fin de soirée.
Bonne fin de soirée.
Merci, au revoir.
Et on peut retrouver, suivre des infos sur le site d'Amnesty, amnesty.fr, et puis sur le site de Greenpeace, pourquoi pas.
Absolument, merci beaucoup.
Bien. Et bien voilà, après des gros dossiers comme ça, ça va être difficile de remonter la pente.
Est-ce qu'on se mettrait pas un petit peu de musique si on a ça sous la main? Voilà, histoire de faire la fête quand même.
Allez, c'est parti.
En tout cas, c'était quand même très intéressant d'avoir toutes ces explications.
Oui.
Yetena na lo chango na imawambuke Mambo mangi ya duba mneponlambo Ama pata mangoso malong makwangi Ekumbula nesake inoboni Nganjanu mende jene ndalonge simo Bango mwanjo mkolo emu mwabuka mbangu Sawari walambo wa dibe ya mitango Mbomane bola lipa maba malangwa miango Na, plenyeke Bambambe kubedi mo, basengi nika Mwendi mwabu mwenderi, imbong Nganjanu mende jene, ndalonge simo Mbango mwanjwa mudiri, mwabu kamba Mon appel à votre long, Mambo mambe wanyolo mmeno nika Masio mamba namba wae amuna sangwa ninye Bamba mbe kubedi mo pasengi nika Mwendi mwabu mwenderi imba Ngadanu mende jene ndalonge simo Mango manjo mudiri mwabu kamba Nanya kiponi magali Na tiki pon jene mulandolo nan ya keep on jenny fool. Let it keep on your young bag.
C'était Richard Bonnard avec Miséa T. C'est T. Miséa, pardon, un cri pour la planète.
Alors maintenant, nous allons aborder l'agenda. Donc après l'apéro presse, le plat. Donc maintenant, l'agenda. Alors moi, je vais vous parler d'un procès de membres du collectif de déboulonneurs. Donc pour rappeler, le collectif de déboulonneurs lutte contre le système publicitaire et organise régulièrement des actions de désobéissance civile, donc non violente, en agissant directement sur les panneaux, sur les dispositifs publicitaires, notamment en écrivant.
Souvent accompagnés des CRS derrière, d'ailleurs.
Ah, ils sont toujours là.
Des vrais poupons, hein.
Ah bah, faut bien qu'ils protègent les citoyens. Non, mais c'est... suite à une action qui s'est déroulée le 28 janvier 2011, donc à Aubert, où six personnes, donc six militants du collectif, ont barbouillé sur des écrans publicitaires. Donc là, on en voit partout qui surgissent. Donc là, ils ont écrit des messages comme stop pub, libérons l'espace public, etc. Donc suite à cette action, il y a un procès qui aura lieu le 8 octobre 2012. Donc à 13h30 au tribunal de grande instance de Paris, donc le 8 octobre 2012 à 13h30 à la 16e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris. Et donc là, c'est une première pour ce collectif, puisque c'est la première fois qu'il est impliqué dans un procès pour dégradation de ses écrans. Alors du coup, c'est l'occasion quand même de dire un petit mot sur ces écrans publicitaires. Donc,
Les écrans, tu parles bien des écrans dans le métro, intelligents, équipés de caméras pour soit officiellement non activés, mais pour analyser le comportement, pour récupérer des informations et adapter la publicité à la personne qui regarde, c'est bien ça, oui.
Voilà, enfin, après, je pense que je ne sais pas s'ils sont intelligents et je ne sais pas si on en est encore jusque-là. Mais en gros, oui, comme tu le dis, en fait, donc ces écrans, donc au début, il y en a eu quelques-uns, ça commençait en 2008. Donc il y a quelques associations qui s'étaient réunies donc pour, en 2009, demander devant le tribunal administratif à ce que le déploiement de ces écrans soit suspendu et à ce qu'un expert indépendant, donc nommé par la justice, les ouvre et voit ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Donc, parce qu'on ne sait pas s'il y a des caméras, mais en tout cas, il y aurait des capteurs pour faire des analyses comportementales et du coup améliorer toujours plus en fait la publicité, etc.
Et de mémoire, je crois que ça consomme l'équivalent d'un foyer en électricité.
Alors, ce qui consomme l'équivalent d'un foyer, c'est un panneau déroulant lumineux qu'on voit dans la rue. Là, c'est l'équivalent de 3 foyers de 4 personnes.
Voilà,
donc en 24 heures, un écran consomme l'équivalent de 3 foyers de 4 personnes.
Je crois qu'en gros, c'est un fer à repasser branché en permanence toute l'année, parce qu'ils n'éteignent même pas la nuit, paraît-il.
Bah non, ils sont tout le temps...
Ouais, parce que c'est fatigant d'allumer, d'éteindre. Puisque, comme il y a le nucléaire qui fait la base, on ne va pas se fatiguer non plus. Donc à tout point de vue, c'est un sacré déchet toxique aussi.
Mmh. Oui, donc c'est énergivore. C'est pareil, tous les composants utilisés pour fabriquer ce genre d'appareil, ça traîne énormément de pollution, etc. à la base déjà. Donc y a beaucoup quand même de critiques par rapport à ces écrans, donc comme je vous ai dit, au niveau de la consommation d'énergie. Aussi par rapport à la santé, parce que ça, c'est quand même extrêmement lumineux, donc il y a des personnes qui peuvent être sensibles. Je crois que les épileptiques sont sensibles à ce genre de...
Ah oui, le rafraîchissement
de choses.
Les images vidéo.
Et après, oui, il y a aussi le fait qu'il y ait des capteurs à l'intérieur, donc on est... encore dans une société où on est toujours analysé, ciblé, etc.
Brother is watching you.
Donc voilà, d'où cette action et ce procès. Donc vous pouvez venir, vous pouvez les soutenir donc en assistant au procès donc le 8 octobre. Il y a aussi un débat qui sera organisé le soir avec notamment donc s'il peut l'avocat et certains des témoins. Donc parmi les témoins qui seront présents au procès, donc il y a un chercheur en neurosciences. Donc voilà, qui va un petit peu expliquer comment le marketing et le système publicitaire utilisent tout un tas de procédés pour manipuler le cerveau. Et donc il y aura aussi comme témoin Thomas Guéret, donc il va parler pour Negawatt, il me semble, donc il va parler justement de la consommation d'énergie que représentent ces écrans.
Alors qu'il y a des gens qui peuvent pas se chauffer l'hiver, on allume des écrans dans le métro. Ça, ouais. C'est... Et alors,
il faut éteindre la lumière quand tu sors d'une pièce.
Il ne faut pas laisser couler l'eau du robinet quand tu laves les dents.
Voilà.
Nous, on n'aime pas trop les petits gestes qui sont un peu réducteurs par rapport à l'ensemble des consommations et des déchets du système capitaliste. Vous l'aurez compris. Merci Élise pour cette info anti-pub.
Je vais rajouter que bon là il y a eu cette action des déboulonneurs, mais il y a aussi ils ont fait aussi deux autres actions et donc de désobéissance civile, et il y a aussi une autre action en janvier 2011 du groupe Danger Écran Pub, donc qui manifestait un peu contre les pubs espions en collant des autocollants d'informations. Et bon là il y a aussi des actions de bris. Donc voilà, des personnes qui ont brisé ces écrans courant 2010. Donc voilà, donc en fait, chaque groupe a un peu sa stratégie, mais on voit quand même qu'il y a que la société civile se soulève, s'inquiète de ce type d'écran dans le métro. Et ils vont aussi bientôt sortir du métro, grâce au Grenelle, etc., qui autorise les écrans dans la rue.
Ah bon ?
Ouais.
Ah, donc, ce sera bientôt New York, quoi. Waouh.
Donc voilà, j'ai fini.
Faudra aller faire du marteau en hauteur.
Peut-être rappeler, puisqu'on a parlé au Japon du début, que au Japon, comme à peu près, presque pratiquement tous les réacteurs sont arrêtés, quoi qu'ils en ont peut-être démarré.
Ils ont redémarré, oui.
Voilà. Bon,
ils veulent en redémarrer encore plus.
Un des moyens pour réduire la consommation espacée des réacteurs, ça a été d'arrêter un peu la pub. Donc voilà, oui. À l'heure où on nous parle d'économie d'énergie, ceci, cela, ce genre de panneau, c'est vraiment débile. Et du coup, on va passer sur l'agenda maintenant. On y est.
On est dedans, c'est ton tour.
Pendant qu'on parle de nucléaire, ce samedi, là, il y aura à Avranches un rassemblement et une manifestation contre la ligne à très haute tension, celle qui est en cours de construction, qui accompagne le réacteur EPR. Avranches, il faut rappeler que sur cette ligne à très haute tension, il y a eu des choses très violentes qui se sont déroulées au Chefren, donc un village qui est traversé par cette ligne à très haute tension. Donc il y a eu un week-end de résistance fin juin avec 25 blessés, dont deux assez sévèrement aux yeux par des éclats de bombes de grenades assourdissantes qui ont été tirées à tir tendu. Ça a été un peu traumatisant pour les participants.
Juste une question, en quoi consistait cette résistance?
Il y a eu un camp, en fait.
D'accord.
Un campement. Et qui était accueilli par le maire de la commune, par le maire du Chefren, qui est lui-même opposant assez ferme à cette ligne à très haute tension, qui a pris un arrêté municipal contre le passage de la ligne. En sa qualité de maire, il a essayé de faire jouer ses possibilités juridiques. Et du coup, il s'est retrouvé lui-même en garde à vue pour entrave... des travaux, enfin je ne sais plus exactement la
nomination.
Voilà. Donc, en gros, il a estimé après cette garde à vue que sa fonction, son mandat n'était pas respecté, qu'il ne pouvait pas le tenir correctement, donc il a démissionné et l'ensemble du conseil municipal l'a suivi. Donc évidemment la nature a horreur du vide, il a été remplacé et je pense qu'il y a des négociations qui se passent. Voilà, mais bon, il y a toujours de la résistance là-bas. Et donc là, ce sera à Avranches ce samedi. Et dans la continuité, il y aura, alors là c'est un petit peu plus avec des assauts, des orgas derrière, Sortir du nucléaire, qui annonce le 13 octobre une manif anti-nucléaire, donc contre le réacteur EPR, contre la ligne à très haute tension. Le point culminant, ce sera à Laval, donc le 13 octobre. Et il y aura dans plusieurs villes des manifestations donc à suivre sur le sortir du nucléaire. Les infos seront dessus.
Voilà. Okay. T'as pas parlé d'un militant condamné, je sais pas.
Condamné bon, ça c'est autre chose, c'est sur Notre-Dame-des-Landes contre l'aéroport. C'était le résultat, donc peut-être on en a pas mal parlé sur FPP pendant le cours de l'été. Il y a eu un procès donc avec effectivement Sylvain Frénaud, un agriculteur qui était inculpé d'attaque sur agent armé d'un tracteur. En fin de compte, il s'était juste interposé. Bon, bref, il a pris un mois de sursis, donc il fait appel. Et il y a un occupant de la ZAD, donc un occupant quelqu'un qui squatte sur les terrains de Vinci, qui a été inculpé de violence sur agent. Donc effectivement, qui a été relaxé des faits de violence, mais qui a été condamné quand même à 2 mois de prison avec sursis pour refus de prélèvement ADN. Donc c'est quand même... une condamnation assez lourde pour un refus de prélèvement ADN. On n'est pas. Enfin, bon, c'est quand même un truc. Surtout qu'à côté, il a été relaxé des faits qui lui ont valu l'arrestation et donc le prélèvement ADN. C'est quand même assez fou. Ouais. Mais bon, le changement, c'est maintenant.
Belle transition, alors. Ou pas, on verra. Du coup, ça me donne envie de parler rapidement du festival des utopies concrètes pour donner un petit côté positif à cette fin d'agenda.
Ouais!
L'idée, c'est que là, à partir de ce soir et jusqu'au 7 octobre, donc il y a un festival en Île-de-France qui vise à mettre en avant tout un tas d'utopies, de pratiques, d'associations qui œuvrent dans le cadre un peu plus général de, on va dire, des territoires en transition, des villes en transition, qui essayent de proposer des alternatives. Au consumérisme, au métro, boulot, dodo, et d'autres pratiques réjouissantes en termes de consommation, de culture, d'approche, je sais pas moi, plein de choses. Donc ça commence ce soir, en ce moment même, à la mairie du 2e, et donc vous retrouverez le programme complet sur le site festivalutopieconcrète.org. Juste pour vous dire que samedi, dans le 19e, il y a un village des utopies concrètes avec des stands associatifs, des animations, au bord du bassin de la Villette de 10h à 18h et aux abords de la péniche Antipode, donc à peu près au milieu du bassin de la Villette. Bon, vous verrez ça de loin si vous passez dans le quartier. Il y a d'autres soirées à venir, Élise.
C'est la ferme du bonheur le week-end du 6-7. Donc la ferme du bonheur à Nanterre, donc il y a plein de choses super aussi qui sont organisées, des ateliers fabriqués, je sais pas, compost, four solaire, enfin plein de choses comme ça. Donc le programme a l'air vraiment très sympa.
Voilà, un petit festival décentralisé comme on aime bien. Donc on vous invite à vous y rendre sur une ou deux dates. C'est vraiment très sympatoche.
Et puis les utopies concrètes, pour une fois qu'on est, c'est pas un truc de hippie, là c'est vraiment du concret quoi.
Voilà, il y a du vécu et puis on peut tous participer. Ça va bientôt être l'heure de rendre l'antenne. Je ne sais pas si on a encore des choses à annoncer. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à annoncer ?
Non. Le combat, on le continue. Il y a plein de choses à faire. Continuez à vous informer, ça c'est très important.
Voilà, écoutez
les
médias.
Ne vous laissez pas dicter votre vie par la télé, ça c'est encore plus important, je pense, par les médias.
Écoutez FPP quoi.
Écoutez les radios libres, écoutez RFPP. Puis nous, on va essayer de se débrouiller pour que vous ayez un beau soleil, si c'est pas en réel, au moins dans la tête. Parce que même si les infos concernant l'environnement et tout ça sont plutôt
c'est pas toujours gay.
Voilà, c'est pas toujours gay. Ça apporte toujours plein de positifs.
Ouais, tant que la piscine du réacteur 4 de Fukushima s'effondre pas, ça devrait peut-être aller.
Voilà. Il reste en espoir.
Ah, on va chanter une petite chanson alors pour finir.
Et voilà, a cappella.
Et on commande en live.
On n'a plus le password, donc on va chanter.
Ah oui. Si, c'est pas tout de suite. Si.
Si t'aimes pas.
Si, c'est musique antique tout de suite.
Bon, alors, comme le dit, comme le dit Bébert, déjà, salutations écologiques et solidaires. Et on va chanter. Si.
t'aimes pas les écolos, casse un vélo. Si t'aimes pas les écolos, casse un vélo. Si t'aimes pas les écolos, si t'aimes pas les écolos, si t'aimes pas les écolos, casse un vélo. Voilà.
Musique anti, wouhou.
À la prochaine.
À la prochaine.